Quand deux gamins se bagarrent dans une cour de récré, c'est difficile de dire qui a commencé. La punition collective s'impose. C'est pareil pour cette histoire de conversion. Qui a commencé, Jésus ou Zachée? Nous verrons combien c'est difficile, peut-être impossible, de trancher. La conversion est une sœur de la guérison. Or, pour celle-ci, comment distinguer ce qui vient de la confiance du malade de ce qui vient du soignant? Mais d'abord, je nous invite à observer le personnage de Zachée, sympathique et curieux. Curieux dans les deux sens du terme. Il est pittoresque avec sa petite taille et son don pour l'escalade, mais il est aussi désireux de voir et de savoir. Et voilà, je voulais justement vous parler un peu de la curiosité, qui n'est pas un vilain défaut seulement, à condition peut-être de distinguer la curiosité, pour ceux qui me regardent, de l'indiscrétion envers ceux qui ne me regardent pas. Ainsi, les enfants qui se demandent comment on fait les enfants, ça les regarde absolument. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Parce que chaque pourquoi enfante d'autres pourquoi ? Parce qu'il faut que les adultes finissent par donner leur langue au chat. On sait bien qu'on ne sait pas bien, en fait. D'où viennent les enfants ? Où vont les morts ? Où vont les réponses toutes faites ? Ainsi, de ces trois amis qui discutent sur la question « Quand commence la vie ?» Le premier dit « Quand le principe féminin croise la route du mal. » Le deuxième dit « D'accord, mais c'est surtout quand le bébé sort du ventre de sa maman. » Le troisième « Vous avez raison tous les deux, mais la vie commence vraiment quand les enfants quittent la maison. » Là, il y a écrit « rire », mais bon, c'est pas grave. Alors, revenons à la curiosité pour les choses cachées. Si vous cachez quelque chose à quelqu'un, en lui montrant que vous cachez quelque chose, la curiosité sera brûlante. La discrétion, ce n'est pas de cacher, c'est de ne pas montrer. C'est être secret et pas faire un secret. Quand Jésus parle en parabole, il ouvre le chemin par de l'énigme. L'auditeur curieux va chercher. La parole, comme la graine du semeur, va cheminer. Et s'il y a de la bonne terre, cela portera du fruit. Quand Dieu interdit les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela tient peut-être à la douleur qu'il a de se séparer de sa propre création. Un peu comme une mère qui dirait « Laissez-moi allaiter encore un peu mon bébé. » Mais, à peine plus loin, Dieu dit à Abraham « Quitte ta patrie et ta famille, deviens toi-même. » Peut-on croire qu'il en veuille encore à Adam et Ève ? La question de savoir qui a commencé, est-ce que c'est Satan, est-ce que c'est Adam ou Ève, Dieu ou le serpent, nous ramène à notre texte du jour. Qui a commencé, l'œuf ou la poule? Zachée grimpe pour guetter Jésus et, d'en bas, Jésus lui parle comme si déjà il s'était invité chez lui. L'arbre est le troisième personnage. C'est un sycomore, j'ai emprunté cela à Edith, qui vous avez fait quelque chose de formidable là-dessus. C'est un sycomore. Le sycomore, ou figuier géant, ou encore érable sycomore, est le symbole chez les Indiens d'Amérique de fécondité et d'éducation. Il ne s'agit pas du dressage, mais de l'authentique éducation, celle qui permet de sortir du lit de la rivière. Grâce à Pierre Masson ici présent, j'ai appris qu'il était possible de pèleriner à cet arbre en allant à Jéricho, car il serait toujours là. Cette question de la temporalité de la conversion se retrouve dans les résolutions de commerce équitable de Zachée. Était-il déjà injuste, lui dont le nom vient de l'hébreu Zakai, qui signifie pur? Si c'était le cas, s'il était déjà injuste, Jésus serait plutôt malhonnête de s'en vanter dans le verset 10 qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Mais Zachée était-il perdu parce que pas encore trouvé ou parce que pas encore pur? Est-il purifié par sa parole, par l'arbre ou par le regard de Jésus? Revenons à l'aspect économique de cette affaire. Qu'est-ce qu'un collecteur de taxes, appelé aussi publicain dans la Bible? C'est un fermier du recouvrement des impôts. Le fermage consiste à verser une somme régulière pour pouvoir taxer un lot de contribuables. Cela le rapproche un peu des corsaires, toujours pour partie pirates. Ceux-ci, après avoir donné sa part au roi, pillaient pour leur propre compte. C'est ce que Zachée va s'engager à ne plus faire. En donnant la moitié de ses biens aux pauvres, d'une part, en rendant aux surtaxés le quadruple du dommage, d'autre part. Son action s'apparente avec le New Deal de Franklin Delano Roosevelt, venu au pouvoir en 1932, peu après la crise de 1929. Franklin Delano Roosevelt, issu d'une famille de protestants émigrés en Hollande au niveau de ses arrière-grands-parents. Voilà, c'est pas pour se vanter, mais c'est quand même le cas. Ce changement de cap est une véritable conversion. Le contexte de notre passage du jour évoque un autre collecteur de taxes, en Luc 18, versets 9 à 14. Il exprime fort sa repentance, celui-là. Il sera lui aussi déclaré juste, car qui s'abaisse sera élevé. Mais qu'est-ce qu'une conversion? Cela vient du mot latin conversio, qui correspond en fait à deux mots grecs de sens différents. D'une part, épistrophé, qui signifie « changement d'orientation » et implique l'idée d'un retour, retour à l'origine, retour à soi. D'autre part, « métanoïa », qui signifie « changement de pensée rapide », à distinguer de la « paranoïa » où le changement de pensée dure longtemps, malheureusement. Cela dit bien la dimension de surprise et de galipette spontanée dans la conversion. J'en trouve une illustration sur un petit papier écrit par ma marraine et cousine Tania Metzel. Celle-ci était pasteur et aumônière des prisons. Voici ce qu'elle avait écrit. La première fois que je suis allée en prison, je croyais que nous devions leur apporter le Christ. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir qu'il nous y attendait déjà. » Fin de citation. Double mouvement que celui de la conversion. On se dirige vers un puits et c'est une oasis qui vient à notre rencontre. Blaise Pascal a écrit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Je lui préfère encore cette formule dont je n'ai pas retrouvé la source, qui dit ceci, « Vous ne me chercheriez pas si je ne vous avais pas déjà trouvé. » Je crois que l'engagement de Zachée n'est pas une constatation. Son dire lui-même est un acte qui répond du tac au tac au grognement de la foule. Cette foule qui voyait en lui un traître à la solde de l'occupant romain. Pour le dire avec les mots de Françoise Dolto, Zachée est allant et devenant pur. C'est un temps qui se boucle sur lui-même, que celui de la conversion. On entend bien comment le futur vient à la rencontre du passé au travers du présent. Cela me fait immédiatement penser à la temporalité du rêve, qui est l'un des outils les plus précieux en psychanalyse. Pourquoi ? Parce que le rêve, et surtout son récit à haute voix, rend l'inconscient crédible. Cela permet d'y accorder foi. En ce sens, le rêve est une conversion. Ces trois temps du rêve sont évoqués dans les dernières lignes de l'ouvrage de Freud appelé « L'interprétation des rêves ». Je cite. En nous représentant un souhait comme accompli, le rêve nous mène vers l'avenir. Mais cet avenir, considéré par le rêveur comme présent, se trouve modelé par l'indestructible souhait à l'image même du passé. Fin de citation. Je nous souhaite d'être comme Zachée, curieux, pittoresque et joyeux d'être choisi. Fions-nous à la coïncidence. C'est un mouvement singulier et actif qui nous dirige vers celui qui nous aura choisi. On se sera déjà retrouvé dans un futur antérieur, porteur de la vie éternelle qui nous aura précédé. Nul ne sait quel fut le premier pas, car nous marchons depuis 100 000 saisons. Sachons faire de nos curiosités des chemins et de nos chemins des engagements. Amen.